Vous êtes sur RTL.
Et on retrouve Alexandre de Saint-Aignan pour le journal de 19h. Bonsoir Alexandre.
Bonsoir Thomas, bonsoir à tous.
Le phénomène inquiétant des bagarres de jeunes dans l'Essonne.
Après la mort d'une jeune fille de 14 ans tuée d'un coup de couteau, des nouveaux affrontements ont éclaté cet après-midi. Dans l'actualité également, les variants hors de contrôle en Moselle. Une bonne raison de se faire vacciner par AstraZeneca. Des professeurs français menacés d'expulsion par la Turquie. Et puis ça suffirait pour racheter l'OM par exemple. 210 millions d'euros à gagner ce soir à l'Euro Million.
La première chose que je fais, je pars en vacances, souffler en jet privé si possible, ça serait parfait.
Voilà, en jet privé,
on va transformer votre voix alors.
Une heure pour jouer sur le site de la FDJ.
RTL Soir.
Elle s'appelait Lilibelle, elle avait 14 ans. Tuée d'un coup de couteau, la jeune fille aurait tenté de s'interposer lors d'un affrontement entre deux groupes de jeunes hier après-midi. Six d'entre eux sont actuellement entendus par les enquêteurs, la procureure d'Evry, Caroline Nizan.
Les investigations mettaient en évidence que les six mineurs placés en garde à vue avaient pris les transports en commun pour venir en découdre à Saint-Chéron dans un contexte de rivalité entre bandes. Les premières auditions permettaient de retrouver l'arme du crime. Il s'agissait d'un Opinel. L'un des mineurs admettait son implication dans le coup mortel porté à la victime. Il est déjà connu pour deux infractions sans lien avec des faits de violence.
Bonsoir Guillaume Chiez.
Bonsoir.
En parallèle, on a appris cet après-midi qu'une nouvelle bagarre a éclaté, toujours dans l'Essonne, impliquant une quarantaine de jeunes. Bilan, un mort, un blessé grave. Ça fait donc deux morts en deux jours. On a l'impression que l'histoire se répète. Le préfet parle d'une flambée de violence entre bandes dans ce département, en Essonne. Est-ce que c'est vraiment le cas?
Oui, à lui seul, le département de l'Essonne regroupe la moitié des rixes enregistrés l'an dernier dans toute l'Île-de-France. Pire encore, alors qu'ailleurs, la tendance est généralement à la baisse dans ce département du sud parisien, leur nombre explose. Près de 80% d'affrontements en plus entre 2019 et 2020, passant de 56 faits enregistrés à 91 selon les chiffres de la préfecture. Mais le cas de la rixe qui a coûté la vie à une collégienne hier est exceptionnel à double titre. D'abord parce que dans une écrasante majorité, ces affrontements n'impliquent que des jeunes hommes. Les cas de filles présentes dans des rixes sont extrêmement rares. Ensuite, parce que jusque-là, ce sont des zones urbaines qui étaient surtout concernées par ces violences dans le département. Évry, Massy, Draveil, Corbeil-Essonne sont le théâtre régulier de violences entre bandes. Mais là, elles ont eu lieu à Saint-Chéron, une petite ville paisible d'à peine 5000 habitants, ce qui fait craindre aux autorités une contagion des villes vers la campagne.
Les explications de Guillaume Chiez pour RTL. Gérard Depardieu, mis en examen pour viol, on l'a appris ce soir, mais ça remonte au mois de décembre dernier.
L'acteur de 72 ans est accusé de viol et d'agression sexuelle par une jeune comédienne. C'était durant l'été 2018. L'enquête avait d'abord été classée par le parquet de Paris, mais la plaignante a obtenu qu'elle soit confiée à un juge d'instruction.
Ouvrons notre page épidémie coronavirus à présent, parce qu'ils sont plus contagieux. On savait que les variants allaient gagner du terrain en France dans les prochaines semaines, mais visiblement le rythme est en train de s'accélérer.
En Moselle, les autorités tentent de stabiliser la situation malgré une proportion inédite et à vrai dire intrigante de variants sud-africains. Samuel Goldschmidt.
Oui, depuis que les laboratoires recherchent les variants, depuis le 9 février, donc en Moselle, cette proportion de virus sud-africains interroge tout le monde, de l'Agence régionale de santé jusqu'au préfet Laurent Touvet.
Il y a un variant sud-africain et brésilien qui est très présent en Moselle et c'est une particularité. On ne sait pas pourquoi ce variant est très présent en Moselle et je dirais presque en Moselle seulement, puisque dans les autres départements, il est présent dans des proportions très faibles.
55% des tests positifs ressortent en ce moment en variant sud-africain. Cela fait 1778 cas rapportés aux tests de la semaine passée. Autre mystère, selon la directrice de l'hôpital de Metz, Marie-Odile Saillard, pour l'instant, l'hôpital tient sans vague d'arrivée.
La pression sur les urgences est légèrement plus importante depuis quelques jours, mais ça n'est pas quelque chose de très conséquent. C'est ténu. Je me garderais bien d'en déduire quoi que ce soit d'important. Ça reste tendu. On est toujours sur le plateau très haut dont je vous parlais il y a quelques jours.
Les variants sont nouveaux, on est en train de se demander s'ils sont moins préoccupants que ce qui avait été pronostiqué, se demande le préfet. Mais dans cette épidémie, ajoute-t-il, on avance avec quasiment une nouveauté par semaine, il faut faire avec.
Les explications de Samuel Goldschmidt en Moselle pour RTL. Si vous pouviez choisir votre vaccin, Thomas, quelque chose me dit que vous ne choisiriez peut-être pas celui d'AstraZeneca. Il est pourtant réservé au personnel soignant pour l'instant. À partir de jeudi, les médecins généralistes vont pouvoir l'utiliser pour vacciner les 50-64 ans qui présentent des facteurs de risque. Ce sera aussi le début de la vaccination dans les entreprises. Entre le manque de données sur son efficacité chez les plus âgés et puis les effets particulièrement indésirables expérimentés par les soignants. Le ministère de la Santé le reconnaît. Ce vaccin reste pour l'instant impopulaire à Gatlandais.
Oui, et cela se vérifie d'ailleurs dans les chiffres, puisqu'en deux semaines, 107 000 personnes seulement ont reçu une première dose de ce vaccin. C'est faible et c'est moins qu'espéré par le ministère de la Santé, qui reconnaît que ce vaccin renvoie une image négative. Deux raisons à cela. D'abord, car il est un peu moins efficace que les deux autres, Pfizer et Moderna. Mais surtout, à cause des effets secondaires. Beaucoup de soignants ont fait état de grosses poussées de fièvre, juste après leur injection. Des patients jeunes, moyenne d'âge 31 ans. Les patients plus âgés, eux, ont beaucoup moins d'effets secondaires, mais cela inquiète tout de même la population. La mission du ministère de la Santé dans les prochains jours sera donc de réconcilier les Français avec ce vaccin. Ils pourront s'appuyer sur une nouvelle étude écossaise dont les premiers résultats concluent qu'il est aussi efficace finalement que les deux autres. On n'a pas le choix, il faut réhabiliter ce vaccin collectivement, nous dit-on au ministère, car il est indispensable pour respecter notre calendrier vaccinal.
Agathe Landais pour RTL, puis on va rappeler ce que disait le professeur Combe, hein, qui est connu pour dire absolument toujours tout ce qu'il pense. Il était avec nous hier soir dans RTL Soir et il disait que lui, il a confiance hein, dans ce vaccin AstraZeneca. Des rues entières, Alexandre, transformées en bars à ciel ouvert à Paris, mais les autorités ne veulent plus voir ça.
Vous voyez, avec l'arrivée des beaux jours le week-end dernier, les gestes barrières se sont relâchés. La préfecture de police a pris un arrêté pour interdire la consommation d'alcool dans plusieurs rues de la capitale, notamment sur la place de la Contrescarpe. Vous vous y êtes rendu pour RTL grâce le plat.
Oui, il y a déjà une dizaine de petits groupes venus profiter du soleil. Alexis et ses amis viennent d'ouvrir leur bière.
À la base, ici, c'est quand même la rue de la soif. C'est pour ça que je venais.
Je vais certainement vous l'apprendre. Pour une durée de 15 jours, il est interdit de boire de l'alcool sur la place de la Contrescarpe.
En fait, on va se faire arrêter. Si juste là, on avait de l'eau, on ne se ferait pas arrêter. Bon, pourquoi pas juste interdire le rassemblement dans ce cas ?
Ouais, ça, c'est quand même propice au rassemblement, le fait de boire de l'alcool.
Ils ont qu'à faire venir les flics, distance de sécurité, machin, et puis terminer. Et les gens, ils prennent des amendes, ils viennent non plus. Et puis voilà, en réalité, je vois pas en quoi. Interdire l'alcool, ça va changer grand-chose. Bah, ça, encore une fois, ça va pas aider les petits commerces qui essayent de s'en sortir.
Et justement, à quelques mètres de là, Arnaud vend des bières. Alors, il n'y a pas de policiers pour le moment sur la place, mais il assure ses arrières.
On a mis en disposition donc, des affiches pour que les gens comprennent qu'il ne faudra pas consommer sur la place, mais qu'il faudra aller dans les rues adjacentes, pas rester ici.
Ceux qui ne respectent pas cette interdiction risquent une amende de 135 euros.
Un reportage à Paris signé Grâce Le Plat pour RTL.
Restez avec nous dans un instant, le gouvernement passe à table, mais alors vous verrez, chacun défend son beefsteak.
Thomas Soto, RTL Soir.
RTL Soir, Thomas Soto.
19h09, la suite du journal Alexandre de Saint-Aignan. Et après la cacophonie de ces dernières heures au gouvernement, c'est le Premier ministre qui a sifflé la fin de la récré.
En pleine polémique sur la décision de la mairie de Lyon de servir des menus uniques, sans viande, dans ses cantines scolaires depuis le début de la semaine, les ministres n'arrivent pas à se mettre d'accord. C'est finalement Matignon qui a rappelé tout le monde à l'ordre cet après-midi, Marie Mollet.
Oui, après trois jours de psychodrame, Matignon intervient pour tenter de remettre un peu d'ordre avec un mail adressé à tous les ministres d'après une information du Parisien. Pour résumer, fin de la partie, on arrête la cacophonie avec au passage le rappel d'une règle de base. On se met d'accord avant et on parle après. Et aux ministres qui n'auraient pas compris le message, Jean Castex se tient prêt à leur en dire deux mots en privé et de vive voix. Il faut dire que la solidarité gouvernementale ne saute pas aux yeux depuis trois jours. D'abord Gérald Darmanin qui monte au créneau contre ce menu unique sans viande, aussitôt contredit par la ministre de l'écologie Barbara Pompili qui pousse la provoque jusqu'à publier un menu 100% végétarien sur les réseaux sociaux. Et sur RTL ce matin, le ministre de l'Agriculture, Julien de Normandie, s'est lui aussi jeté dans la mêlée.
D'un point de vue nutritionnel, c'est aberrant d'arrêter de servir de la viande dans toutes les cantines Pompili. De la République. D'un point de vue social, c'est une honte, parce que c'est toujours une écologie de l'entre-soi, où à chaque fois, ce sont ceux qui sont les plus fragiles qui sont pénalisés par de telles décisions.
Et la guéguerre s'est même propagée sur les bancs de l'Assemblée. Des députés En Marche ont publiquement choisi leur camp. Alors la pression est un peu retombée ce soir, mais ça ne fait pas très sérieux, regrette un député. Les Verts nous ont tendu un piège et on est tombé dedans, la tête la première.
Marie Mollet du service politique de RTL.
Apprendre le turc ou quitter le pays. Voici, résumé en quelques mots, l'ultimatum lancé à une vingtaine d'enseignants français qui vivent en Turquie. Donc.
Conséquence des nouvelles tensions diplomatiques entre Ankara et Paris, le président turc Erdogan a décidé de durcir les conditions de séjour et de travail pour les Français sur place. Conséquence à l'université francophone de Galatasaray, autrefois symbole de la coopération entre nos deux pays. Plusieurs professeurs se retrouvent en situation irrégulière, Brice Dugénie.
Oui, suite à une décision du gouvernement français d'obliger notamment les imams turcs à passer un examen de français avant de s'installer dans notre pays, eh bien le président turc Erdogan demande aux professeurs français de passer un test de turc pour faire valider leur permis de travail. Le problème, c'est que même avec le niveau requis, le test n'est jamais validé. Pire, les Turcs demandent que l'évaluation soit faite dans un centre de formation qui aujourd'hui ne propose plus d'examen à cause du Covid. Une situation ubuesque dans laquelle se trouve cette professeure qui veut rester anonyme. Sans permis de travail et sans titre de séjour, elle ne peut même plus revenir en France.
Évidemment, donc on ne peut pas du tout, c'est le gros problème majeur qui est pour moi le plus grave, rentrer en France pour voir nos familles. S'il y avait n'importe quelle urgence, je ne peux pas rentrer, quoi. C'est incroyable. C'est une vraie prise d'otage, j'avoue, enfin, franchement, parce que qui ne nous donne pas de permis de travail par rapport à l'université, à la limite, bon. Mais enfin, qu'on soit vraiment... On peut pas quitter le pays, on peut pas sortir du pays, c'est chaud un peu.
Certains profs ont même peur de sortir et de se faire contrôler par des policiers zélés, otages d'une énième tension diplomatique entre les présidents Macron et Erdogan.
Les précisions de Brice Dugénie pour RTL. C'est le moment de tenter votre chance, méga jackpot de 210 millions d'euros à gagner ce soir, cagnotte historique pour l'euro-million. C'est tout simplement le maximum, ça signifie que ce soir, même en l'absence de gagnant, cette somme sera partagée entre les vainqueurs du rang 2, de quoi motiver les joueurs que vous avez rencontré dans un bar tabac du 7e arrondissement de Lyon, Frédéric Perruche.
Kamel a dépensé 70 euros pour avoir le droit de rêver et pourquoi pas prendre le large.
La première chose que je fais, je pars en vacances, un beau voyage. Un voyage d'un mois avec toute la famille. Profiter, c'est tout. Souffler en jet privé si possible, ça serait parfait. Ça serait magnifique. On loue un jet et on part.
Pour Franck, en cas de jackpot, direction l'Amérique.
Quitter la France, m'installer à Daytona, aux États-Unis, en Floride.
Pour le soleil ?
Oui, et pour la moto surtout. Là où il y a soleil, là où il y a liberté, on peut rouler sans casque aussi. Ce qui n'est pas plus mal.
Claude, retraité, n'a besoin de rien, alors s'il gagne, il redistribuera ses millions.
Moi, je ferai plaisir à beaucoup de gens. Vous voyez ? Il y a plein d'associations, d'animaux, de gens qui peinent, qui sont dans la rue. Vous voyez, aider des gens. La meilleure des choses, c'est de faire plaisir aux gens.
Et les joueurs se bousculent, constate Sébastien, le patron du Raja.
Surtout vu la situation actuelle, tout le monde a envie de partir au soleil. Tout le monde veut gagner, ouais. Tout le monde veut devenir riche. Et le Covid, entre autres, il accentue la misère sociale, donc du coup, plus de joueurs. Il y a besoin de rêver, voilà. C'est le seul échappatoire, on va dire.
Encore quelques heures pour rêver. On connaîtra le ou les gagnants à 21h45.
Le reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL.
J'ai une question pour vous, Alexandre. Comment on fait ? Parce que 19h14, donc là c'est fermé, couvre-feu, comment on peut encore jouer ?
C'est sûr que les bars tabac ils sont fermés, mais on peut quand même jouer sur Internet.
À jouer en ligne.
Ouais, sur fdj.fr, vous avez jusqu'à 20h15, donc ça laisse une heure pour jouer.
Une heure pour faire fortune.
Ouais, c'est ça, c'est une belle promesse.
Si jamais vous ne gagnez pas, vous reviendrez quand même. Hein.
Oui, je reviens, même si je gagne.
Il sera déjà une première victoire, un gros million ou pas. Demain, il fera beau.
Oui, ça c'est sûr, c'est clair, Thomas, avec du très beau temps toute la journée. Il faudra juste attendre un petit peu parce que le matin, c'est vrai qu'il y aura quand même quelques bandes brouillard sur le nord-est, de la grisaille près de la Manche et dans le sud-ouest également. Alors, trois gouttes possibles dans la matinée sur le Languedoc sous un ciel encore couvert avec les entrées maritimes comme sur la pointe bretonne. Le tout avec du vent partout ailleurs, les régions centrales et le sud-est. Là, il fera déjà très beau. Et puis, dans l'après-midi, tout ça va se dissiper. Le soleil va s'imposer sur l'ensemble du pays. Allez, peut-être un petit peu plus de nuages entre la Bretagne et les côtes de la Manche, mais l'impression sera belle. Il y a juste sur le Languedoc où ça restera plus nuageux. Vous l'avez compris, encore une belle journée avec des températures qui vont s'envoler. Bon, pas le matin, faudra se couvrir quand même. 3 degrés à Mulhouse, 4 à Metz, 9 degrés à Lyon, 10 à Paris, 11 à Toulouse et Montpellier. Et les maximales, elles seront encore largement au-dessus des normales. Je rappelle qu'à cette période de l'année, la moyenne est de 9 degrés au nord et 12 au sud. Demain, il fera déjà 15 degrés à Brest, 18 à Reims, ainsi qu'à Orléans, Grenoble et Marseille, 19 à Paris, Limoges, Tarbes et Perpignan, 20 degrés à Agen et c'est pas fini, 21 à Bordeaux.
Il y a 10 jours, il y avait de la neige et du verglas partout.
Exactement, c'est fou. Hein. À Clermont-Ferrand, pareil, 21 degrés jusqu'à 22 demain après-midi à Biarritz.
Eh ben, on va aller se baigner. Merci beaucoup à vous.